La mâle reine.
Aller de Conches à Paris en une seule journée, c'était une rude étape, même pour un cavalier entraîné, et qui exigeait un cheval solide. Robert d'Artois laissa en route deux de ses écuyers dont les montures étaient tombées boiteuses. Il arriva de nuit dans la cité, trouva, malgré l'heure tardive, les rues encore encombrées de bandes joyeuses qui fêtaient l'an neuf. Des ivrognes vomissaient dans l'ombre sur le seuil des tavernes, des femmes se tenaient par le bras, chantant à tue-tête et le pas mal assuré, comme dans le conte de Vatriquet. Sans égard pour cette roture que le poitrail de son cheval bousculait, Robert alla droit au palais. Le capitaine de garde lui apprit que le roi était venu dans la journée pour recevoir les vœux des bourgeois, mais qu'il était reparti pour Saint-Germain. Robert alors, franchissant le pont, alla au Châtelet. Un pair de France pouvait se permettre de réveiller le gouverneur. Or, celui-ci interrogé déclara n'avoir reçu ni la veille, ni ce jour, aucune dame qui se nommât Jeanne de Divion, ni qui ressemblât à sa description. Si elle n'était pas au Châtelet, elle devait être au Louvre, car on incarcérait d'ordre du roi qu'en ces deux places-là. Robert poussa donc jusqu'au Louvre, mais le capitaine lui fit la même réponse. Alors où était la Divion ? Robert avait-il cheminé plus vite que les sergents royaux et par une autre route devancé leur détachement ? Pourtant, à Oudan, où il s'était renseigné, on lui avait bien dit que trois sergents conduisant une dame étaient passés depuis plusieurs heures. Le mystère se faisait de plus en plus dense autour de cette affaire. Robert se résigna à rentrer en son hôtel, dormit peu et, avant l'aube, partit pour Saint-Germain. La gelée blanche couvrait les champs et les prés. Les branches des arbres étaient vernies de givre et les collines, la forêt autour du manoir de Saint-Germain, semblaient un paysage de confiserie. Le roi venait de s'éveiller. Les portes s'ouvrirent pour Robert jusqu'à la chambre de Philippe VI, lequel était encore au lit, entouré de ses chambellans et de ses veneurs, et donnait des ordres pour la chasse du jour. Robert entra d'un pas d'assaut, mit un genou au parquet, se releva aussitôt et dit « Sire, mon frère, reprenez la pairie que vous m'avez donnée, mes fiefs, mes terres, mes revenus, ôtez-moi le bien et l'usage, chassez-moi de votre conseil étroit auquel je ne suis plus digne de paraître. Non, je ne suis plus rien au royaume. » Ouvrant tout grand ses yeux bleus par-dessus son nez charnu, Philippe demanda « Mais qu'avez-vous donc, mon frère ? D'où vous vient cet émoi ? Que dites-vous ?
Je dis le vrai. Je dis que je ne suis plus rien au royaume puisque le roi, sans daigner m'en informer, fait saisir une personne qui loge sous mon toit. »
Qui ai-je fait saisir ? Quelle personne ?
Une certaine dame de Divion, mon frère, qui est de ma maison, servante à la robe de mon épouse, votre sœur, et que trois sergents, sur votre ordre, sont venus prendre à mon château de Conches pour la conduire en geôle. »
Sur mon ordre ? Dit Philippe stupéfait.
Mais je n'ai jamais donné tel ordre, Divion. J'ignore ce nom. Et de toute manière, mon frère, faites-moi la grâce de me croire, je n'eusse point fait saisir en votre maisonnée, quand même en aurais-je eu le motif sans vous tenir au fait, et d'abord vous demander conseil. »
C'est ce que j'aurais cru, mon frère, dit Robert. Pourtant, cet ordre est bien de vous.
Et il tira de sa cote la lettre d'arrestation remise par les sergents. Philippe VI y jeta les yeux, reconnut son petit sceau et les chairs de son nez blêmirent.
Héroir, ma robe ! Cria-t-il à l'un de ses chambellans. « Et qu'on se hâte à sortir, qu'on me laisse seul avec Monseigneur d'Artois !»
Ayant rejeté ses couvertures brodées d'or, il était déjà debout en longue chemise blanche. Le chambellan l'aida à enfiler une robe fourrée, voulut aviver le feu dans la cheminée.
« Sors, sors, j'ai dit qu'on me laisse seul !»
Jamais Héroir de Belle-Perche, depuis qu'il servait le roi, n'avait été traité avec pareille violence comme un simple garçon de cuisine.
« Non ! Je n'ai nullement scellé cela, ni dicté rien qui y ressemble, » dit le roi quand le chambellan se fut retiré.
Il examina très attentivement la pièce, rapprocha les deux parties du cachet brisé par l'ouverture de la lettre, prit une loupe de cristal dans un tiroir de crédence.
« Ne serait-ce pas, mon frère, » dit Robert, « qu'on aurait contrefait votre sceau ?»«
Cela ne se peut. Les faiseurs de coins sont habiles à prévenir copie et dissimulent toujours quelques petites imperfections volontaires, surtout pour coins royaux ou de grands barons. Regarde le L de mon nom. Vois la brisure qui est au bâton et ce point creux dans le feuillage de bordure.
« Alors, » dit Robert, « n'aurait-on pas détaché le cachet d'une autre pièce ?»
La chose en effet se pratique, il paraît. Avec un rasoir chauffé ou de quelque autre manière, mon chancelier me l'a certifié. Le visage de Robert prit une expression naïve, comme s'il apprenait là une chose insoupçonnée. mais le cœur lui battait un peu plus vite. « Mais ce ne saurait être le cas, » poursuivit Philippe, « car tout exprès, je n'use de mon petit seau que pour des cachets à briser. Jamais je ne l'emploie sur page plate ni lac. » Il resta silencieux un moment, les yeux fixés sur Robert comme s'il lui demandait une explication qu'il ne cherchait en vérité que dans sa propre pensée. « Il faut, conclut-il, qu'on m'ait dérobé un moment mon seau. Mais qui? Mais quand? De tout le jour, il ne quitte la bougette à ma ceinture. Je ne m'en défais que la nuit. » Il alla vers la crédence, prit dans le tiroir une bourse de tissu d'or dont il palpa d'abord le contenu, puis qu'il l'ouvrit, et dont il sortit son petit seau qui était d'or, avec une fleur de lys pour servir de poignée. « Et je le reprends au matin. » Sa voix s'était fait plus lente. Un doute terrible s'installait en lui. Il reprit l'ordre d'arrestation et l'étudia de nouveau avec grande attention. « Je connais cette main, » dit-il. « Ce n'est pas celle d'Hugues de Pommard, ni celle de Jacques la Vache, ni de Geoffroy de Fleury. » Il sonna. Pierre Trousseau, l'autre chambellan de service, se présenta. « Mande-moi d'urgence, s'il est au château ou bien ailleurs, où qu'il se trouve, le clerc Robert Mulet, qu'il vienne ici avec ses plumes. » « Ce mulet, » demanda Robert, « ne sert-il pas aux écritures de la reine Jeanne, ton épouse ?»« Oui, mulet sert tantôt à moi, tantôt à Jeanne, » dit Philippe VI évasivement pour masquer sa gêne.